France Culture.
Le département de l'Allier, c'est assez délirant, nous a dit, écoutez, nous, on va vous couper une subvention, donc il faut que vous choisissiez.
Carole Thibault, metteuse en scène et directrice du Théâtre des Ilets, Centre dramatique national de Montluçon.
Vous préférez qu'on vous coupe la subvention qui vous permet de tourner en zone rurale dans les médiathèques, ou vous préférez qu'on vous coupe la petite enfance? Et donc on a dit, bah pouf pouf, on va faire la petite enfance parce que c'est celle qu'on a depuis le moins de temps. Voilà, donc ça veut dire que c'est d'une violence inouïe parce qu'il n'y a pas de dialogue. Moi j'ai toujours dit aux partenaires ici, aux tutelles, j'ai toujours dit, il faut qu'on soit en dialogue, que vous n'ayez plus d'argent, que vous ayez des baisses. On le comprend puisqu'on vit la même chose. Mais si on n'est pas en dialogue là-dessus, si on ne cherche pas des solutions, et ça ne veut pas dire nous accrocher à mort à nos subventions, c'est essayer de voir comment on peut mutualiser avec d'autres structures, par exemple, essayer de mettre en place d'autres manières de fonctionner que ces espèces de manières extrêmement brutales qui ne prennent absolument pas en compte l'expertise des acteurs et des actrices de terrain que nous sommes et qui sont des espèces de couperets qui tombent sans aucune attention au public, aux gens. Donc on a fait pouf pouf, on va sacrifier la petite enfance et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé coupé de 10 000 euros. Voilà. Puis l'année d'après, on nous a dit on va vous couper maintenant les subventions pour les tourner en médiathèque. Donc on avait eu beau faire pouf pouf, vous savez, c'est comme dans les mauvais films. L'année d'après, on n'avait plus le moyen de tourner en médiathèque. Voilà, pour parler de la brutalité, en fait, des méthodes aujourd'hui employées qui sont au-delà de questions de restrictions budgétaires pour les collectivités territoriales.
Artistes, techniciens et techniciennes, auteurs, autrices, intermittents et intermittentes du spectacle, comédiens, comédiennes, enseignants et enseignantes, vous êtes toutes et tous les acteurs et actrices d'une chaîne essentielle à la vitalité de notre pays.
La culture sous pression, une série documentaire de Bruno Binquet, réalisée par Agnès Catou. Premier épisode, le théâtre public, un plan social silencieux.
Le théâtre Nouvelle Génération que je dirigeais a subi une coupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023 d'un montant de 175 000 euros, ce qui est énorme.
Joris Mathieu, auteur-metteur en scène, ancien directeur du théâtre Nouvelle Génération à Lyon.
Alors la région à l'époque l'a présenté en disant c'est mineur parce que nous ne représentons que 6% du financement, mais finalement, pris dans un fonctionnement où on a des emplois permanents, les conséquences, elles sont assez rapides et immédiates. C'est-à-dire, quand on apprend en cours d'année qu'une subvention qu'on avait habituellement chaque année depuis plus de 10 ans n'est non seulement pas reconduite, mais totalement supprimée, vous imaginez l'impact que ça a sur un exercice qui est déjà en cours et qui est déjà projeté dans son activité. Ça veut dire que on a engagé 175 000 euros de trop dans notre activité. Donc, la première conséquence, pour moi, en tant que dirigeant de structure à l'époque, c'était de conduire la structure à un déficit.
La culture, c'est bien plus qu'un divertissement. C'est un pilier de notre société, un vecteur de lien social, un outil d'émancipation et de réflexion. C'est un droit fondamental, un bien commun qui doit être accessible à toutes et tous sans distinction. Ces coupes ne sont pas de vraies économies, ce sont des choix idéologiques.
Décembre 2025, on apprend qu'on perd 40 000 euros d'un seul coup.
Fia Ménard, metteuse en scène et directrice de la compagnie Non Nova.
Par un courrier qu'on reçoit, comme toutes les compagnies et beaucoup de lieux, avant même la délibération, avec beaucoup d'autorité et puis un discours comme quoi les compagnies ligériennes sont des compagnies hautement politiques, donc qu'elles utilisent les subsides de la région à des fins politiques. Donc la ville de Nantes nous a aidés par une sur-subvention un petit peu, mais qui n'a pas compensé, mais qui est un geste très important, puisque c'est un geste réconfortant et un geste aussi actif. Le département, lui, a été dans l'impossibilité de nous maintenir, donc de baisser aussi. Ce qui a eu comme conséquence, c'est que nous avons été obligés de faire un licenciement. Je pense la chose la plus difficile à faire en tant qu'artiste, en tant que directrice de compagnie, et de non reconduire des contrats en CDD. Donc là, ça veut dire aussi une perte pour un ensemble de personnes. Ce que je veux dire, derrière, même les transporteurs de décors ont subi. Par exemple, nous avons un espace de jardin, on employait un groupe ESATCO qui est tout un travail auprès des travailleurs handicapés. Et on n'a pas pu maintenir. Ce qui veut dire que c'est un enchaînement, en fait, derrière. C'est ça, la réalité.
Pas d'opération escargot, pas de pneus qui brûlent, ni de fumier répandue sur les préfectures. De ce plan social à bas bruit qui touche le monde de la culture, vous n'en avez pas entendu parler. Pourtant, soumis à des baisses budgétaires importantes, le milieu de la culture traverse une crise inédite. Nous aurions pu parler du bouleversement du financement du cinéma, de la crise profonde de l'édition, du manque de considération des arts visuels ou de la musique. Mais par son importance grandissante dans la politique culturelle française depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est le théâtre public qui se retrouve particulièrement vulnérable à ces coupes. Longtemps appelé théâtre subventionné par ses contempteurs pour en souligner le coût, le théâtre public voit les moyens de ses missions de démocratisation remis en cause et doit à nouveau justifier de son utilité. Prendre le pouls du théâtre public, c'est prendre le pouls de la politique culturelle française. Alors donnons la parole à ceux qui continuent, dans les théâtres, partout en France, d'assurer la continuité de notre service public de la culture.
Il y a une crise financière de la culture qui est réelle.
Guy Saez, directeur de recherche honoraire au CNRS et membre du comité d'histoire du ministère de la Culture.
Elle est surtout prononcée depuis 2013-2014. Donc, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une crise financière de la culture, c'est quelque chose qui s'est accéléré avec le Covid, d'une part, puis avec l'inflation de 2022-2023, d'autre part, liée à la guerre en Ukraine et au renchérissement de l'énergie. Mais en fait, c'est en 2014 que les subventions au secteur culturel ont chuté brutalement. Le président a demandé, compte tenu de la crise des finances publiques, aux collectivités locales de faire un gros effort d'économie. Et elles l'ont fait sur cette période, 2013-2017. Les collectivités territoriales ont supprimé 1 milliard de crédits à la culture sur plusieurs années. Donc c'est une saignée extrêmement importante. Et la deuxième saignée est intervenue avec le Covid, où là, c'est à peu près 500 millions d'euros qui ont été perdus. Et aujourd'hui, évidemment, on est tous au courant du contexte financier et budgétaire de la France. Donc les collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs des activités culturelles en France, sont un peu sur le reculoir. Mais ça pose une autre question. Disons qu'une analyse de la situation du domaine culturel aujourd'hui ne pourrait pas s'arrêter à la crise financière. La crise financière est à la fois un révélateur et un symptôme. Ça, c'est un facteur de la crise et c'est aussi un symptôme de quelque chose de plus profond qui est, me semble-t-il, une crise des structures profondes de la politique culturelle ou des politiques culturelles telles qu'on les a connues depuis, en gros, leur stabilisation avec le ministère Lang.
Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que ces baisses budgétaires qui ont affecté les collectivités territoriales en 2025 sont inédites à la fois au niveau du nombre de collectivités qui baissent leur budget culture et également au niveau de l'ampleur de ces baisses.
Vincent Guillon, co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles.
50% des collectivités territoriales, donc comprenant les communes, les départements, les régions et les intercommunalités, baissent leur budget culturel totaux, ce qui est une situation complètement inédite du point de vue de la dynamique historique des politiques culturelles au niveau budgétaire. Donc on a là une vraie rupture finalement par rapport à la dynamique budgétaire depuis les années 80, qui jusqu'aux années 2000 a été en progression constante. C'est une politique publique qui s'est fortement développée au cours de cette période. et depuis les années 2020, observer une stabilité d'ensemble. Donc on voit que 2025 ouvre finalement à une nouvelle séquence de politique culturelle sur une base financière beaucoup plus fragilisée. Pour bien prendre la mesure de ce fonctionnement, le niveau de financement des collectivités territoriales en matière culturelle est deux fois plus important que celui du ministère de la Culture. Mais bien sûr, entre collectivités territoriales, tout le monde ne contribue pas à la même hauteur. Le principal financeur des activités culturelles, des politiques culturelles, et de loin le bloc communal, qui représente plus de 80% des dépenses culturelles totales des collectivités territoriales. Viennent ensuite les départements, hein, qui arrivent au second rang et qui représentent environ 12% du financement public au niveau des collectivités territoriales, des activités culturelles, puis les régions qui arrivent en troisième position.
Oui. Petit chaud, tu peux appuyer le printemps, s'il te plaît.
Bon, et ça, on s'en fiche, on le fera. Allez, hop.
On a pu être témoin presque en premier lieu dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes.
Joris Mathieu, coprésident du SYNDEAC, Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Qui est une conflictualité des différentes échelles territoriales et donc des gouvernances politiques sur la vision qu'il pouvait se faire de la politique culturelle. Et derrière cette conflictualité, on le voit très souvent, c'était finalement une polarisation d'une conflictualité, l'État versus une région ou l'État versus une municipalité. Les collectivités, disons, à juste titre que... Elle représente 2/3 du financement public de la culture face à l'État qui ne représenterait qu'un tiers. Et donc, les collectivités voulant de plus en plus peser sur l'orientation, les missions, les cahiers des charges, des structures, même lorsqu'elles sont labellisées par l'État. Donc, cette conflictualité, elle a parfois conduit à des retraits financiers sur des structures. Par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, pour prendre cet exemple, qui, à l'occasion du deuxième mandat de Laurent Wauquiez à sa présidence, lorsqu'il a été réélu, a fait le choix de différencier sa politique culturelle de celle de l'État et de celle de certaines municipalités. Laurent Wauquiez est arrivé en disant « Je suis président de région, je constate des disparités sur mon territoire, je considère que les métropoles sont trop bien dotées » et que les territoires ruraux ne le sont pas assez, je veux lutter contre cette fracture. Ça, c'était, si je dis pas de bêtises, en 2022. En fait, ce constat, il était plutôt consensuel, et il a été plutôt reçu par les professionnels du secteur ou les organisations professionnelles comme une invitation à se mettre autour de la table pour réfléchir à comment réduire cette fracture dans une période où, comme je l'expliquais, les moyens d'action des structures culturelles s'étaient affaiblis. Finalement, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de réflexion partagée. On a appris subitement que la région avait pris une série de décisions pour retirer des crédits à plus de 140 structures de la région, sur le motif qu'ils seraient redistribués plus équitablement sur les territoires. Cette redistribution, honnêtement, elle n'a pas été avérée, on n'a jamais pu la vérifier.
C'est là où on aborde le vrai sujet, c'est que la culture existe parce qu'il y a des subsides, mais comme toute entreprise...
Fia Ménard, fondatrice et directrice de la compagnie Non Nova, à Nantes, Pays de la Loire.
Il faut aussi rappeler que la culture et les compagnies ont une forme d'entrepreneuriat. Ils engagent des individus, des artistes, des techniciens, des administrateurs, des administratrices. Et là, on est vraiment l'époque, dans les années 2010, c'est une époque où on est très soutenu. Donc les relations sont plutôt bonnes. La compagnie, quasiment au moment où arrive le Covid, on est à 70% d'autofinancement. C'est-à-dire que nos ventes de spectacles, il y a 30% qui sont la part de subsides. Ça veut dire qu'on a une compagnie qui va avoir quasiment 5 postes permanents, plus pas loin d'une trentaine de personnes intermittentes qui vont travailler sur 5 productions en même temps. Je parle à cet endroit-là de l'étape Covid parce que avant l'arrivée du Covid, il y avait déjà une vision un peu d'un changement de politique, un changement de regard sur la culture, et il y avait déjà des attaques assez visibles, et notamment sur le fait que les subventions allouées aux lieux étaient très conditionnées, les lieux de diffusion, et qu'on sentait déjà qu'il y avait une sorte d'embouteillage qui arrivait à ce moment-là. Jusqu'à 2024, c'est l'annonce sèche de la fin des subventions par la région Pays de la Loire, donc d'une manière très brutale, très à l'air du temps, à la Trump, hein, il y a quelque chose de ça. Mais les signes étaient déjà arrivés en 2023 lorsque la région a décidé d'arrêter sa présence au Festival d'Avignon, chose qui était depuis très très longtemps posée quand même, région Pays de la Loire en Seine. Et puis, une chose qui nous aurait dû nous faire réagir tous et toutes, c'est quand ils ont décidé d'arrêter de coproduire et surtout d'aider à la création. Là, ça aurait dû être un signe très fort, parce que ça voulait dire que de toute façon, ils allaient s'attaquer à la suite.
Alors, je n'arrête pas la culture. C'est toutes les subventions qui ont été regardées ligne à ligne.
Christelle Morancet, présidente Horizon du Conseil régional des Pays de la Loire, décembre 2024.
Et je pense que le drame aussi de ce pays, c'est une subvention, c'est pas acquis à vie. J'ai même dit qu'on était shooté à la dépense publique. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des acteurs ont pris pour habitude que la subvention, bien, c'était acquis à vie. Et la subvention, c'est pas non plus pour payer des loyers ou des emplois. C'est à un moment donné, quel effet de levier ça peut faire pour un territoire.
Ce cas de la région Pays de la Loire fait exception dans le paysage des collectivités territoriales françaises, puisque aucune autre collectivité territoriale que la région Pays de la Loire présente un tel niveau de coupes budgétaires. C'est donc un cas qu'on pourrait qualifier de maximaliste, finalement, de retrait, qui est aussi inédit hein, dans l'histoire des politiques culturelles modernes, puisque jusqu'ici, dans mon souvenir, on n'avait jamais eu de collectivité territoriale qui avait présenté un tel niveau de retrait sans aucune anticipation, hein, puisque les annonces sont faites quasiment du jour au lendemain, laissant les acteurs culturels et artistiques dans un grand désarroi. Mais il y a un autre précédent qui est cette fois plus idéologique, qu'amène cette région à travers sa décision de retrait, qui se manifeste dans le type de justification qui a été formulée, dénonçant des associations culturelles et artistiques trop fortement politisées, dénonçant également le fait qu'elles étaient fortement dépendantes des subventions publiques. Et à travers cette justification des baisses budgétaires, qui n'est pas uniquement une justification gestionnaire, il y a finalement une rupture avec les valeurs de la famille politique dont se réclament la présidente de région et ses principaux conseillers, c'est-à-dire les valeurs du gaullisme. Et ensuite, des familles politiques de droite qui ont jusqu'ici toujours joué le jeu de la politique culturelle, y compris lorsque les opérateurs artistiques, culturels, ne défendaient pas ou ne véhiculaient pas forcément les valeurs ou les idées auxquelles elles adhéraient.
J'ai l'impression qu'il n'y a personne.
Ces baisses ne sont pas des baisses contrites ou contraintes.
Emmanuel Négrier, politologue, directeur de recherche à l'Université de Montpellier.
Elles sont des baisses souvent assumées par les acteurs politiques. Le fait que l'argument qui est souvent donné pour ces baisses, c'est la contrainte budgétaire, on ne peut pas faire autrement, vous comprenez, les dépenses culturelles ne sont pas obligatoires et donc il faut bien en passer par là, oh, qu'on est désolé. Mais non, en fait, un même parti politique peut avoir des réactions très différentes, donc ça veut dire qu'il s'agit là d'un choix politique. Et on aurait beaucoup de peine à repérer une idéologie unitaire derrière ces décisions, puisque si vous prenez les régions par exemple, à un même parti politique ou à une même tendance présente dans le socle commun aujourd'hui correspondent des stratégies complètement différentes. Celle de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et de sanctuariser le budget culturel. Celle de Christelle Morançais dans les Pays de la Loire est au contraire de l'attaquer. Donc là, il y a des positionnements politiques qui sont tout à fait illisibles d'un point de vue partisan. Et c'est la même leçon à gauche avec la région Nouvelle-Aquitaine qui baisse significativement son budget culturel, tandis que la région Occitanie le maintient à peu près. Bon, on observe la même chose et les mêmes différences dans d'autres niveaux de collectivités. Les départements, tout le monde dit qu'ils souffrent de manière absolument considérable, d'autant plus que la situation sociale est très défavorable et que les départements doivent assumer des dépenses sociales. Donc on pourrait se dire, bon, au moins les départements sont tous obligés de se serrer la ceinture en matière de culture. Inexact. Si je prends une seule région, la région Occitanie, 13 départements, il y a deux gros départements qui sont d'ailleurs les plus riches, la Haute-Garonne et l'Hérault, qui subissent des baisses et des dépenses dans le domaine de la culture tout à fait considérables, mais deux des départements qui ne sont pas parmi les plus riches, voire même qui sont parmi les plus pauvres à l'échelle nationale, le Gard et le Tarn, maintiennent, voire augmentent leur enveloppe culturelle. Là aussi, il s'agit de choix politiques et non pas d'ajustements techniques.
Quand en 1983, la France a été obligée, parce que nous étions confrontés à une crise économique très grave, de mener une politique dite de rigueur et d'austérité budgétaire.
Jack Lang, ancien ministre de la Culture, janvier 2018.
Trois budgets ont échappé à la rigueur et ont augmenté, le budget de la culture, le budget de la recherche, le budget de l'éducation. Et quand en 93, il y a eu la même chose, le budget de la culture a connu une amélioration. C'est précisément dans les périodes où il y a une crise que l'on doit faire un effort supplémentaire pour tout ce qui touche à l'esprit, éducation, culture, recherche scientifique.
Très très vite, en 2025,
Carole Thibault.
On a eu des coupes énormes sur tous les budgets qui concernent le travail avec les établissements scolaires. Ici, on n'a pas d'université, on a très peu d'enseignement supérieur à Montluçon. Donc on travaille beaucoup avec les collèges et lycées, notamment en zone rurale, sur l'agglomération, mais en zone rurale aussi. Et le problème, c'est que les établissements n'ont plus d'argent pour louer des bus, pour emmener les élèves ici, qu'il n'y a plus d'argent pour payer les places de spectacle. Là, tout récemment, on a appris ça. Donc là, on va faire un appel à la solidarité du public, sachant qu'on a un prix des places ici au choix extrêmement réduit. C'est un tarif solidaire et responsable. Donc, dans le cadre de ce tarif, on va appeler à la solidarité du public. Certains établissements vont pouvoir continuer à payer des places en grattant sur leurs fonds propres, mais d'autres ne vont plus du tout pouvoir. Et généralement, évidemment, c'est les établissements les plus pauvres, donc ceux qui touchent les élèves les plus défavorisés. Donc, c'est une injustice sociale absolument crasse. Donc on a eu une baisse de subvention là sur 2025 de la part de l'agglomération qui est présidée par le maire de Montluçon. Hein, ça se confond, l'agglomération de Montluçon et la ville. Donc c'est sur la subvention de fonctionnement qui n'avait jamais été touchée ici. C'est-à-dire que la ville, l'agglomération avait tenu malgré tout à préserver toujours cet outil du Centre dramatique national. Et puis d'un seul coup une baisse de 10%. En plein milieu d'année, hein, ça se fait beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que vous apprenez que vous avez une baisse de subvention au moment où vous avez déjà lancé toute l'activité de l'année, hein, donc des fois 6 mois après. Donc c'est très très compliqué au niveau budgétaire et puis pour tenir par rapport aux engagements des autres artistes, etc. Donc je m'en étonne. Et au conseil municipal, l'opposition interroge le maire sur cette baisse de subvention. Et le maire dit que oui, mais de toute façon, peut-être que c'est parce qu'on n'intéresse pas tant que ça les gens. Et il parle de la fréquentation du théâtre. Donc ça m'agace parce que c'est des mensonges. Donc je donne les chiffres. Donc là, ça devient une bataille dans la presse locale. Et je dis au maire, vous dites des mensonges. En fait, nous avons tant de taux de fréquentation, nous touchons tant de personnes, etc. Et là, le maire répond dans le même article que lui, il répond au désir des Montluçonnais. Et que le désir des Montluçonnais, c'est pas la culture, c'est les caméras de surveillance. Et c'est la sécurité. C'est écrit noir sur blanc.
C'est le paradoxe dans lequel on est actuellement.
Benoît Lambert, directeur de la Comédie de Saint-Étienne.
au fond, il y a une crise gravissime que moi, avec le recul que j'ai, je n'ai jamais connue. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que je fais du théâtre. Je n'ai pas souvenir d'une situation aussi compliquée pour la création artistique et pour le théâtre. La brutalité la plus grande aujourd'hui, elle s'exerce sur les équipes indépendantes, sur les compagnies artistiques et sur certains lieux en fonction des endroits où ils sont. Ça a des effets sur toute la chaîne de production et sur tout l'écosystème théâtral, c'est évident. Enfin, donc là, on est quand même pas loin d'un effondrement général, d'autant plus que comme on travaille avec des équipes indépendantes qui elles-mêmes travaillent avec des intermittents du spectacle, pour le dire vite, il y a un immense plan social invisible qui est en train d'avoir lieu dans le secteur. Ça, c'est absolument évident.
Tu vas aller jusqu'où, Chichi ?
Il y a une subvention d'État qui est vraiment la subvention la plus importante sur le budget, mais qui à la Comédie Française et depuis 20 ans bientôt maintenant ne couvre plus la masse salariale.
Éric Ruff, comédien et metteur en scène, ancien administrateur général de la Comédie Française de 2014 à 2025.
Et c'est ce qu'on appelle l'effet de ciseau, en fait c'est aussi simple que ça, il y a ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires. C'est un cadrage qui est donné par la tutelle, qui dit vous pouvez augmenter les salaires de 1,6, de jusqu'à 4, lorsque c'était la Covid. C'est une autorisation, mais il n'y a pas l'argent qui vient avec. Et sur 400-450 salariés, la Comédie Française, c'est des masses qui augmentent, qui peuvent aller jusqu'à 600 000 euros, 700 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, et ça rentre dans les salaires d'une façon pérenne. Donc cette somme-là, vous devez la trouver, et surtout, l'année d'après, elle y est, mais l'année d'après, il y a à nouveau une NAO qui vient se cumuler dessus. Donc c'est très compliqué pour celle ou celui qui dirige, parce que les salariés, avec tout à fait légitimement, disent « moi je m'en sors pas » et ne demandez pas ce qu'on vous remercie pour les quelques euros en plus qu'on nous donne vis-à-vis de mes besoins, ça n'est pas respectueux. Et qu'en même temps, cette petite portion, mais multipliée par le nombre de salariés, crée sur l'état financier de la maison une chose assez complexe. Donc c'est toujours un jeu de dupes avec les tutelles disant non, la subvention n'a pas baissé, mais comme le coût de la vie a augmenté, et on peut arriver, au bout d'un moment, dans des considérations où on ne saurait plus comment payer les salaires, ou alors on se fragilise sur la part qui nous intéresse tous, à savoir la part artistique, volatile. Voilà. Il y a un ratio négatif de bientôt 6 millions, maintenant. Alors, la billetterie, qui est donc, après la subvention, la ressource propre la plus importante, c'est, je crois, aux alentours de 8 millions la saison dernière. Une jauge, elle est physique. À partir du moment où vous remplissez tous les sièges, vous pouvez éventuellement ne les remplir qu'avec des gens qui veulent bien payer très très cher. Donc là, vous gagnez un peu plus d'argent. Mais la tutelle a un discours qui n'est pas vicieux, qui est vicié par des injonctions contradictoires, je pense qu'ils subissent eux-mêmes. C'est-à-dire que vous faites le mardi une réunion sur l'accessibilité, et donc on vous demande d'avoir plus de moins de 28 ans, on vous demande que le public d'y empêcher puisse venir, on vous demande de développer pour tous les handicaps des réponses qui soient pertinentes et intéressantes, et pour absolument tout le monde. Et le jeudi, vous avez une autre réunion où on vous demande de développer vos ressources propres et on vous demande d'augmenter les tarifs des billets. Donc moi, je me suis beaucoup amusé à leur demander si on pouvait faire la réunion, une seule réunion, le mercredi, celle du mardi et du jeudi cumulé, pour qu'on puisse les uns et les autres pas s'affronter bêtement, mais juste se dire on a un problème de vision, on est dans un paradoxe, on n'accuse personne de l'avoir inventé, mais comment est-ce qu'on se débat dans cette chose-là ?
Alors, il est tentant d'imaginer que, dans un monde où les subventions vont devenir de plus en plus difficiles,
Emmanuel Négrier, politologue.
Le mécénat peut, évidemment, prendre le relais. Ça fait très longtemps qu'on entend ça. La loi de 2003 renforce, disons, les avantages fiscaux que les mécènes recueillent en raison de leur engagement auprès de projets culturels.
Je crois qu'il faut remettre ce recours, cette option-là,
Vincent Guillon,
en perspective avec ce qu'elle représente du point de vue de son poids budgétaire par rapport aux financement public, puisqu'il y a moins actuellement d'1 milliard d'euros de fonds privés venant du mécénat et du sponsoring contre 19 milliards d'euros de fonds publics pour la culture. Donc, souvent, cet argument de la substitution de la subvention publique par du mécénat cache une autre réalité. C'est que ce mécénat a un coût pour les finances publiques, puisque dans la majorité des cas, les dons privés donnent lieu à des réductions d'impôts. Et on est d'ailleurs dans un cadre juridique et fiscal qui est plutôt favorable en France de ce point de vue-là. Donc oui, le recours au mécénat, au sponsoring peut être encouragé, peut être un complément pour un certain nombre d'équipements ou d'établissements qui parviendraient à convaincre des donateurs, mais en rien une alternative au financement public de la culture.
En mécénat, on le trouve, parce que le mécénat, qu'est-ce qui marche? C'est le patrimonial. Refaire un salon magnifique, fait en 1830, qui a besoin de nettoyer les ors, etc. Ça marche parce qu'ils peuvent amener leurs clients et dire c'est grâce à moi, voilà, ça met du lustre sur le lustre. Par exemple, on a des mécénats à la Comédie Française qui nous aident, entre autres, à ce que tous les moins de 28 ans puissent venir gratuitement à la Comédie Française. Alors, c'est pas les meilleures places, évidemment, c'est tout le poulailler, mais c'est une tradition, il y a tellement de gens qui ont découvert le théâtre comme ça que ça peut marcher. On fait en sorte aussi que plein d'associations qui viennent avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds au théâtre, on s'est toujours dit que le public éloigné, si vous le mettez au paradis, ça confirme le fait qu'il est éloigné, vu qu'il est à la place la plus éloignée. Donc, on fait en sorte que lui, il paye 6 euros, et c'est le mécénat qui fait le ratio jusqu'à la place de catégorie A, mais la personne, elle est assise au 4e rang, au 6e rang, et ce qu'on peut espérer d'une épiphanie, de quelqu'un qui vient et qui voit un acteur ou des acteurs pour la première fois, qui sont touchés par l'émotion, voilà, qui peut arriver, tout ça, c'est du mécénat. Mais le mécénat, c'est une manne très volatile, parce que ils peuvent s'engager, se désengager, même quand vous avez des contrats, des triennaux. Si la personne veut partir, est-ce que ça coûte un avocat, un truc, un machin? Enfin voilà, ça, on ne le fait pas, évidemment. Et puis ça dépend aussi d'une santé financière qui vous dépasse totalement, qui serait celle de la France, du monde, etc. Et ça, vous pouvez éventuellement le sentir venir, mais contrecarrer une chose comme ça, trouver d'autres solutions, vous n'y arrivez pas.
Mais l'avantage fiscal n'est pas le moteur de l'engagement d'un mécène auprès d'un projet culturel. Ce qui motive ce mécène est en même temps ce qui fragilise son soutien. C'est une passion individuelle du patron de l'entreprise, c'est une stratégie à un moment donné de valoriser tel ou tel type d'art. Mais la fragilité, elle est liée au fait que ces passions ne sont pas forcément stables dans le temps. Et les projets culturels, eux, par contre, ont un besoin de stabilité dans le temps assez considérable en raison de leur ambition, qui est non pas d'offrir ce que les gens aiment déjà, mais de leur proposer ce qu'ils pourraient aimer. Il y a toujours une part de risque là-dedans, de danger, de temps, de pédagogie. Donc il y a une sorte de risque que le mécénat ne soit que, je dirais, un substitut temporaire à une crise des financements publics de la culture qui est, elle, beaucoup plus structurelle. Donc, voilà, ces mécènes ne peuvent pas, en volume budgétaire, compenser les manques à gagner de subventions publiques. Les données ne sont pas du tout les mêmes. Si on regarde en moyenne dans les finances d'un festival en France aujourd'hui, alors je parle dans les grandes largeurs, hein, si la médiane du soutien public est aux alentours de 45-50%, la médiane de la contribution du mécénat dépasse à peine les 10%. Donc comment imaginer que d'un seul coup, une espèce de frénésie de mécènes pour la culture puisse propulser le mécénat au niveau actuel de la dépense publique? Ça n'est pas réaliste.
Pourquoi pas le mécénat? Pourquoi pas?
Carole Thibault.
Mais on est à Montluçon. Enfin, on est à Montluçon. Donc, on peut avoir un petit coup de main de l'imprimeur qui va peut-être baisser un peu ses tarifs, qui lui-même est dans une situation très compliquée. Mais on est dans un territoire qui a subi la désindustrialisation à fond. On est sur une ville qui a perdu la moitié de ses habitants en l'espace de 50 ans, à l'après la fermeture des usines. On est sur un territoire qui est très pauvre, et qui est très pauvre aussi en zone rurale. On n'est pas du tout sur des grands terrains agricoles. On est sur des anciens métayages, c'est-à-dire vraiment des petites propriétés agricoles. Donc, c'est pas possible le mécénat ici. Voilà. Et moi, j'en serais très heureuse qu'il y ait du mécénat. J'ai rien contre. Moi, je trouve que ça fait partie d'un rapport de solidarité. Voilà. Mais c'est pas du tout qu'on court après les subventions. C'est qu'en fait, il faut bien se rendre compte que, évidemment, il y a une inflation en France et que les subventions ne sont pas indexées en France. C'est l'énorme problème. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'augmentation, il y a forcément une baisse. Parce que toutes les charges augmentent et ça veut dire qu'il y a de moins en moins de moyens pour l'activité puisqu'on ne peut pas baisser le fonctionnement. Puisqu'on va pas se mettre à licencier les gens d'un seul coup parce que les équipes bossent à plein temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, donc ça a été cette évolution-là, et je pense que depuis, on assiste à une destruction méthodique, réellement, de tout ce qui concerne la culture en France et du théâtre public de façon plus générale. Alors, plus ou moins volontaire, je pense qu'il y a des endroits qui sont très idéologiques par rapport à ça, et puis il y a des endroits où simplement, mais ça reste aussi politique d'une certaine manière, il y a une forme d'indifférence maintenant des élus, des collectivités, qui fait que ça n'a plus beaucoup d'importance, ça ne sert pas à grand-chose.
Il faut voir quand même, parce que quand même, toi, on a commencé, Yael, à travailler un peu déjà sur le pantalon. Mmh. Elle a défait l'ourlet, mais tu ne l'as pas refait pour voir avec toi pour la longueur, tu vois, pour être d'accord.
Mais pour que ça casse comme ça, c'est nickel, ça.
Donc il y a quand même un petit ourlet à refaire, parce que là, il est vraiment brut.
Ah oui, oui, ok.
Ouais, donc il y a un petit truc à faire.
Super. On fait ça tout au même moment
On fait tout ça maintenant avec le monde.
Allez, et puis, ça marche.
J'ai vu surtout 8 ministres de la culture en 11 ans.
Éric Ruffe.
Donc on peut, j'imagine, au niveau événementiel, justifier de cette prolixité. On peut aussi se dire que ça témoigne quand même du fait que la culture, en tout cas ce ministère-là, ou en tout cas la personne qu'on met à sa tête, ça relève quand même plus d'un souci d'équilibrage politique, de parité, donc d'équilibrage de gouvernement. Et c'est bien dommage, parce que avoir une politique culturelle, lorsqu'on change à sa tête les personnes aussi fréquemment, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que au moment où un ministre a validé à peu près la bonne idée et qu'elle est prête à vous aider à partir sur ce chemin-là, elle change. La personne qui arrive écoute d'une oreille distraite ce qui était sur la table par des réflexe de territoire, les gens ont toujours envie de faire quelque chose de plus ou de différent et de marquer un petit peu leur passage. Donc le temps qu'ils aient une autre bonne idée qui se révèle au cours des mois pas très bonne et de se dire finalement l'idée première n'était pas si mal conçue que ça, et que ok, on la relance, et c'est que t'es et on reprend. Donc cette chose-là en soi est assez pénible.
Je pense, contrairement à un discours un peu automatique...
Benoît Lambert.
D'abord, qui pourrait consister à dire que les artistes sont de mauvais gestionnaires, que le monde de la culture donne dans la gabegie. On a entendu des formules absolument scandaleuses de les artistes gavés de subventions. Enfin, on a entendu une rhétorique comme ça, tout à fait insultante et qui traduit une méconnaissance assez fondamentale de nos métiers. Je pense qu'il y a déjà eu un effort de gestion des établissements culturels. Je parle pas que de la Comédie de Saint-Étienne, mais je pense que tout le monde a fait extrêmement attention à ce qu'il était possible de faire pour maintenir l'activité. Donc nous, jusqu'à présent, on a réussi à maintenir l'activité. Alors je dois préciser que nous avions pris à notre arrivée une décision qui n'était pas une décision de nature budgétaire, qui était une décision de nature politique et artistique, qui était de réduire légèrement le nombre de titres que nous accueillions dans une saison. Il y en avait une quarantaine à notre arrivée, on est passé à une trentaine, sans réduire le nombre de levées de rideaux et de représentations. Donc en allongeant les durées de représentation, c'est-à-dire que quand vous jouez plusieurs fois le même spectacle, c'est moins coûteux que de jouer une fois ou deux fois plein de spectacles différents. Et je pense en plus que c'est vertueux non seulement pour les artistes qu'on accueille, mais c'est aussi vertueux pour les publics, parce qu'au fond, quand vous multipliez le nombre de titres, vous avez tendance à intensifier les pratiques des mêmes. Quand vous étendez les durées de représentation d'une même œuvre, d'abord vous donnez une chance à des gens qui font un petit peu de temps pour entendre parler du fait que ça joue dans la ville et que c'est intéressant et qu'ils pourraient venir. Mais aussi, tous nos services de médiation, nos relations publiques, ça leur a donné la nécessité, et ils l'ont fait d'ailleurs, ils et elles l'ont fait avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme, d'aller chercher des publics nouveaux d'une certaine façon.
un escalier jaune. La maison est tellement grande qu'on met des couleurs aux escaliers.
Hortense Archambault, directrice de la MC 93, la maison de la culture de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny.
On va aller voir l'atelier de construction puisque c'est un des endroits secrets de la MC 93. On a un atelier de construction de décors. En fait, là, il y a 3 étages. Il y a la serrurerie, la menuiserie et la peinture. En fait, sur les productions, par exemple, là, vous voyez, il y a un très beau poisson en papier japonais. Ça, c'est pour le vieux colombier, la comédie française, parce qu'on fait aussi des décors pour des gens qui ne sont pas à la MC. Mais effectivement, on fait les décors ici de toutes nos productions maison. N'importe qui ne serait pas dans notre secteur se pencherait sur l'économie du spectacle vivant. Elle serait assez fascinée par notre capacité d'inventer des solutions pour faire avec les moyens qu'on a budgétairement possible. Et on est très inventif, me semble-t-il. C'est-à-dire, effectivement, essayer de mutualiser, essayer de construire des tournées plus concertées qu'avant, essayer de, du coup, partager les frais de camion, enfin, qui sont nous, on a des frais, des contraintes très lourdes. Le spectacle vivant, ça se balade. Et donc, cette mobilité est très coûteuse. En revanche, cette question de la production, c'est une question qui est apparue récemment. Et c'est pas tant qu'il n'y a pas assez de spectacles qui soient produits, puisqu'il continue à y avoir beaucoup de spectacles produits, mais dans des formats qui sont de plus en plus semblables les uns aux autres, et qui sont des formats, des petits formats, avec peu d'acteurs sur scène, peu de décors, peu de recherches techniques autour de ces spectacles-là. Donc la prise de conscience, c'est de comment faire en sorte qu'il continue d'y avoir des grandes formes qui soient produites, d'autant qu'en France, on a aussi une vitalité artistique incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une très très grande diversité dans le théâtre français qui est lié à notre système vraiment incroyable qu'il faut préserver, quoi. Et peut-être qu'au-delà du nombre de productions, c'est plutôt quel type de production. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on a encore les moyens de permettre à des artistes de travailler longtemps, de faire de la recherche, d'inventer des formes esthétiques, de travailler à inventer des représentations différentes du monde, en fait. Et je pense que c'est ça, en tout cas, pour moi, c'est mon sujet d'inquiétude, c'est comment on peut faire en sorte qu'il y ait des répétitions pendant de longs mois, qu'il y ait la mobilisation d'équipes techniques, qu'on puisse chercher pour trouver. Parce que l'art du théâtre est sans cesse, c'est un art millénaire, mais qui est sans cesse, on va dire, réactivé par des inventions esthétiques.
Mais c'est vrai qu'on est à l'os aujourd'hui sur ce qu'on peut envisager de réduire, d'optimiser, de voilà. Parce que les personnels dans nos théâtres sont des militants de la question culturelle, bien entendu qu'une des formes d'ajustement, ça a été d'intensifier notre engagement et notre travail. C'est pas tenable durablement. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très légitimement, les équipes permanentes dans les théâtres, que parfois certains partenaires publics ont l'impression de considérer comme des coûts. Enfin, ça, c'est désastreux. Ce n'est pas des coûts, c'est du travail humain. C'est des gens qui travaillent. Ils sont au service de la création de l'action artistique, des publics et de leur développement. Donc, une équipe permanente d'un théâtre, c'est pas un centre de coûts. C'est une richesse pour faire des choses. Bien au contraire, il leur est demandé beaucoup aujourd'hui à ces équipes. De fait, et légitimement, elles commencent à revendiquer un peu parce que les salaires dans notre secteur évoluent peu. Bon, voilà. Donc, je crois que beaucoup de choses ont été compensées par l'engagement des équipes artistiques, des équipes dans les théâtres, et que d'une certaine façon, c'est très compliqué, mais je pense que l'hôpital doit être dans la même situation, l'enseignement doit être dans la même situation, c'est-à-dire, c'est très très dur de se résoudre à la dégradation du service que vous offrez parce que les financements ne suivent pas. C'est très compliqué, cette affaire-là. Donc, on compense sur l'énergie et la militance.
Alors, le Centre dramatique national de Montluçon, c'est un petit Centre dramatique national. C'est très important parce que je pense que ce sont les centres dramatiques nationaux les plus agiles, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on fait tout. Ici, il n'y a pas d'hôte ou d'hôtesse d'accueil. On a un tableau et on sait qui va déchirer les billets, qui va tenir le bar avec la personne qui s'en occupe, qui va faire l'accueil du public. On fait tout ça. Moi, je le fais aussi. Donc, il y a quelque chose qui est... On est une petite équipe très polyvalente et très engagée. On échappe à une espèce de cloisonnement un peu hiérarchique, même si évidemment c'est une structure hiérarchique. Enfin voilà, il y a une directrice. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est vraiment un endroit d'esprit d'équipe et d'engagement très resserré. Et je pense que ça, c'est énorme ce que ça apporte face à ces baisses de subventions, parce que on se débrouille. Alors, on se débrouille, c'est pas exponentiel, hein. Je veux dire, il y a le droit du travail. On va pas demander aux gens d'un seul coup de bosser 70 heures par semaine en étant payé 35 heures, c'est pas ça. Mais dans 35 heures, quand on compresse, et malheureusement, on compresse de plus en plus, on peut faire plein de choses, quoi. Là, par exemple, on est en plein anniversaire des 40 ans de ce théâtre. Ça fait 40 ans qu'il a été ouvert, ce théâtre, par les fédérés, il y a 40 ans. À la fin de la saison dernière, j'ai dit à l'équipe, parce qu'on voulait monter une grande exposition en travaillant sur nos archives, etc. Et j'ai dit à l'équipe, on pourra pas. On n'a pas les moyens, on va abandonner cette idée. Et l'équipe m'a dit, on va le faire. Et on l'a fait. C'est quand même extraordinaire. On a fait cette exposition avec un des régisseurs généraux, Pascal, par exemple, qui en même temps qui a fait les arts plastiques, enfin les beaux-arts, pardon. Et on a créé une exposition qui est extrêmement vivante et qui est très belle, qui n'est pas du tout une exposition classique, parce que l'équipe a dit, on le fait, quoi. Donc, je veux dire que, malheureusement aussi, ça repose beaucoup sur la volonté humaine et l'engagement des gens. Et je trouve que les élus sont quand même très légers avec ça. Parce que d'une part, il n'y a pas de reconnaissance de ces engagements, c'est-à-dire qu'on continue à nous accoler une image de parasites, un peu, on se demande un peu ce qu'ils font, etc., alors qu'ils le savent très bien, ils ont tous les chiffres, hein. Ils ont tous les chiffres, hein, du nombre de partenaires avec qui on bosse, du nombre de représentations qu'on fait sur le territoire, du nombre d'actions sociales, du nombre de... Voilà. Et il y a le côté aussi, d'une autre manière, métier-passion. Bon, après tout, hein, puisqu'ils sont payés à faire du théâtre, ben, autant qu'ils marnent, quoi. Donc, on restreint. Et nous, comme on est un peu couillons et que... Et je pense réellement que pour être dans ces baraques, il faut avoir un engagement chevillé au cœur. Mais comme toutes les compagnies aujourd'hui que je connais, les acteurs de terrain aujourd'hui, je veux dire, il y a des gens qui bossent de plus en plus, qui prennent sur eux, sur leur temps, parce qu'ils n'ont plus les moyens et en même temps, ils ne veulent pas abandonner. C'est pas possible d'abandonner ça. Et donc, ça arrange bien aussi les politiques. Ça arrange bien aussi les cadres dans les institutions d'État, de région, etc., qui se disent, après tout, on restreint, mais ils continuent à faire. Donc, tout va bien. Et en même temps, comment ne pas continuer à faire ?
Donc là, on va aller dans la salle de lecture, en fait, ce qui sert à faire des répétitions parfois et à faire des ateliers qui accueillent la classe prépa. Là.
Bonjour ! Je vais venir avec le micro.
Restez totalement naturel. Hein.
Pour aller dans le sens du mouvement, quand il y a la musique et que vraiment on lâche prise et qu'on y va, je dirais pas danser, parce que danser, il y a une forme de conscientisation du mouvement. Mais là, c'était vraiment juste instinctif, on fait quelque chose. Et je trouve que par rapport au premier jour, il y a plus un truc de collectif, même dans des choses qui ne le sont pas forcément. C'est juste le fait de partager le plateau et de bouger dans le plateau ensemble. Voilà, je trouve que ça a bien avancé là-dessus. Ouais.
Il y a une pression sociale sur tout le monde. À tout le monde, on demande des résultats.
Fia Ménard.
On ne supporte pas les gens qui ne sont pas efficaces. Et je pense que c'est plutôt ce rapport-là qui s'est fait. C'est-à-dire que la pression faite sur les politiques a fait que la relation avec les artistes a bougé à cet endroit-là. Aujourd'hui, il y a aussi un renouvellement de ces personnes qui n'ont plus le même parcours. Avant, les directions, pour la grande partie, et celles que j'ai connues, moi, dans les débuts de mon travail, c'était ce qu'on appelait des socioculturels, c'est-à-dire des gens qui avaient fait tout un parcours, qui étaient peut-être passés par des MJC, qui étaient peut-être passés par beaucoup d'actions sociales, des convictions très fortes, et qui, petit à petit, ben, eux avaient... une sorte de dialogue avec les politiques et de courage, parce qu'ils venaient aussi d'une autre époque. Aujourd'hui, on a de plus en plus, dans les nouvelles directions, des gens qui ont été formés, notamment par des cursus universitaires, où on leur a appris, on leur a donné un diplôme de gestion, de management culturel, et qui répondent à l'offre. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans ce système de l'offre et de la demande. Donc, c'est aussi une réponse totalement économique. Au moment où on demande au théâtre, au lieu de diffusion, de faire du chiffre, c'est-à-dire on a passé sans arrêt cette question du remplissage, au moment où les subventions sont moindres pour les lieux, eh bien, ça se répercute aussi sur le fait, est-ce qu'on prend plus de risques ou est-ce qu'on prend moins de risques ? Est-ce qu'on va faire plus de têtes d'affiche ou plus de créations contemporaines ? C'est-à-dire des formes d'aujourd'hui, des questionnements d'aujourd'hui. et de trouver les moyens de subvenir à l'argent que ça nécessite, au temps que ça nécessite.
Il y a 10 ou 11 ans, ou il y a 15 ans, aucun politique ne pouvait dire à quoi ça sert. Quoi ça sert le théâtre? Qu'est-ce que vous faites? Tant d'argent pour? Ok, mais ça sert à quoi? Il y avait une sorte d'exception culturelle française, je sais pas, une sorte de grand nuage comme ça qui empêchait, ou alors ça se disait d'un ton un peu goguenard, en faisant trois clins d'œil, en disant non, mais je m'avance un peu, je rigole, hein, évidemment. Maintenant, en fait, c'est des questions qui se posent ouvertement. Et j'ai déjà dit souvent que, en fait, on est mauvais en face, parce qu'on ne peut pas pitcher l'utilité de ce qu'on fait. Et là, je peux parler des musées, des trucs et machin. Là, moi, c'est le théâtre, mais qu'est-ce que ça donne le théâtre chez les gens? Ça rentre pas dans un graphique, ça rentre pas dans un schéma camembert, ça rentre pas dans un schéma cigarette, tout ça. Les courbes d'audience ne disent rien de cette chose-là, de quelle épiphanie, qu'est-ce que ça donne chez quelqu'un, qu'est-ce que ça crée. Mais comme on n'arrive pas à le dire, comme ça s'inscrit pas, là, je viens de quitter mes fonctions et on a eu 5 ou 6, je crois, inspections sur le dos. Ce qui est normal, hein. C'est tout à fait normal, c'est de l'argent public, j'ai bossé pendant 11 ans, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent, qu'est-ce qui a été pertinent, qu'est-ce qu'il faut changer, aucun problème là-dessus. Il m'étonnait du nombre, comme si l'étude scrupuleuse des organisations, des hiérarchies, du budget, l'utilisation du budget, allait donner enfin le pitch de à quoi ça sert. C'est ça, et c'est pas que des gens ignorants. C'est souvent des gens dont le tropisme est très économique, mais je crois que Mitterrand a été le dernier à avoir fait ses humanités, enfin avoir une éducation latine, hélène, etc. Et que ensuite, l'école de commerce, la science politique de la finance a pris le pas. Et sans doute que ça conduit à une certaine considération, ou non, c'est sûr. Mais de plus en plus maintenant, le « à quoi ça sert ?» se dit de plus en plus ouvertement, et d'autant plus que je ne sais pas quelle est la réponse globale de tout le monde dans la rue, mais je pense qu'il y a une majorité de gens qui pourraient dire « j'en sais rien » à rien. Voilà. Moi, je ne vais pas au théâtre. Dites-moi combien vous mettez pour le théâtre. Ben, mettez ça à l'hôpital, mettez ça aux prisons, mettez ça à la police, mettez ça sur les besoins vitaux, régaliens, etc. Faites-le. C'est compliqué, cette défense-là.
Moi, je m'érige et je pense qu'il faut qu'on s'érige en faux contre tous ceux qui disent que finalement, il y a un désintérêt de la population pour ce qui se passe dans le secteur public de la culture. Et au fond, ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'affirmer que c'est incroyable, les pratiques culturelles des Français, il y a la moitié des Français qui sont allés voir un spectacle vivant dans l'année. C'est des chiffres géniaux. Un quart sont allés au théâtre. Donc on n'est pas dans notre chambre d'enfant en train de faire une crise quand on dit que finalement on participe à la vie de la société et que au fond les gens ils ont envie d'aller au théâtre, ils ont envie de voir des pièces qui les surprennent, ils ont envie d'être émus, ils ont envie de réfléchir, ils ont envie d'être curieux. Enfin, on voit bien qu'on est tous aujourd'hui dans ce besoin de trouver un nouveau rapport en fait dans nos imaginaires et dans le quotidien pour un nouveau monde. Et si on est dans cette ambition-là, ben, c'est pas évident et il faut beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'échecs, essayer, réessayer avant de trouver quelque chose qui soit une forme artistique qui réponde à ce besoin d'un nouveau rapport. C'est-à-dire pendant combien de temps on va pouvoir prendre le temps d'écrire un récit pour qu'il soit plus poétique que s'il n'est simplement que du témoignage. Pendant combien de temps on va pouvoir travailler un déplacement d'une traversée de la scène de gauche à droite ou de cour à jardin, si on veut parler en langage de théâtre, pour que cette traversée, elle ait un rythme ou quelque chose qui nous donne une étrangeté à nous, spectateurs, et qui permette tout à coup de regarder un tout petit peu différemment le réel, en fait. Voilà, bah là, on a, dans la grande salle, on est à la fin du démontage qui a été fait. Il y a une équipe là, d'une dizaine de personnes qui est sur le plateau et qui finit le démontage avant qu'on installe le spectacle qu'on va accueillir la semaine prochaine.
je reprends souvent cette phrase de Andrei Tarkovsky, le réalisateur et grand cinéaste, qui dit comme ça, tout le monde ne peut pas être artiste dans la société. Il faut qu'il y ait des individus qui se dévouent pour sortir de la société, se mettre à l'écart, pour pouvoir renvoyer le miroir à la société de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait. C'est le rôle de l'artiste, c'est le rôle, de, je pense, du chercheur, de la chercheuse. Et que ben voilà, ce rôle-là, c'est un rôle du temps.
C'est du temps long, le théâtre. C'est long à faire. C'est long pour les gens, même. Il faut passer une nuit dessus pour savoir ce qu'on en a pensé. C'est long, quelquefois, pour s'apercevoir que la lecture de ce truc-là, finalement, nous aide à ce moment-là, alors qu'au moment où on l'avait lu ou vu, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, j'appelle ça la nidification. C'est comme les oiseaux. Bah, tu mets une branche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis au début, ils font quoi, les oiseaux? Ils font, pourquoi, tiens, ils transportent des branches. Puis, au bout d'un moment, 15 jours après, vous voyez qu'il y a un nid, et je dis, ah putain, c'est bien fait. Voilà, la nidification, elle prend du temps. Je crois que la culture ou l'art, c'est cette œuvre-là. Mais c'est une œuvre lente, et en plus, c'est une œuvre masquée. Parce que quand tu te nidifies, en fait, tu le sais pas. Tu sais pas exactement à quel point ce spectacle va créer l'angle d'appui d'une autre chose et sur lequel ta propre culture, ton propre intérêt, ta curiosité, ton paradoxe, ta richesse va commencer à constituer quelque chose qui devient une richesse personnelle, donc une richesse aussi pour les autres.
Ça, je pense que c'est le cœur d'être le lieu où on se pose des questions par opposition au lieu de culte où on a les réponses. Eh bien, le théâtre, le lieu de la culture est là pour ça. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Qu'est-ce que c'est que la musique? Qu'est-ce que c'est que d'être acteur? Qu'est-ce que c'est que d'être circassien ou circassienne? Le pouvoir de l'art, c'est de sortir de l'académisme et de se permettre d'aller faire ce qu'on n'a pas le droit ou ce qu'on nous dit on n'a pas le droit. Parce que c'est là où on va trouver son mode d'expression. Mais ça veut dire que c'est un choix de lutte et que c'est accepter d'être des personnes politiques, donc des citoyens et des citoyennes. Et je pense que c'est l'endroit le plus difficile parce que ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a l'étape de la survie. Et souvent, je pense à cette... C'est une des chansons de Léo Ferré que j'aime beaucoup où à un moment, il dit comme ça que quand on vit comme on veut, on gagne comme on peut. Et quelque part, l'artiste, c'est ça. L'artiste a une certaine liberté. Mais son combat, c'est traverser. C'est traverser tous les champs, tous les domaines. C'est ne pas hésiter à aller dans l'expérimentation. Et même si en effet ça fait peur, c'est là où ils trouveront le plaisir. Et plus il y aura du plaisir, plus ils le feront transmettre aux spectateurs.
Merci à Carole Thibault, Fia Ménard, Joris Mathieu, Éric Ruff, Benoît Lambert, Hortense Archambault, Guy Saez, Vincent Guillon et Emmanuel Négrier. Documentation Annelise Signoret, Archivina Sylvia Monduc, prise de son Florent Layani, Dauphard Guéride, Nicolas Mathias, Florent Bujon, Benjamin Troncin et Nicolas Depagraf. Mixage Manon Houssin. Chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était La culture sous pression. Premier épisode, Le théâtre public, un plan social silencieux. Un documentaire de Bruno Binquet, réalisé par Agnès Catou.